Vous entrez dans les ateliers de la nuit. C'est une figure qui rend visite à l'atelier du son ce soir. Un guitariste, rocker et philosophe qui a pu dire par exemple « Si tu me demandes quelle est ma radicalité, c'est tout simplement changer la vie ». C'est un musicien qui a musicalement travaillé avec Gilles Deleuze, qui a pensé la musique à partir des mots « différence »,« répétition »,« temps »,« durée ». Qui a fait déclamer à Deleuze des textes de Nietzsche pour un 45 tours aux arrangements rock. Il a connu 68, le rock électronique dans les années 70. Richard Pinas est un personnage d'un certain underground, figure d'une pratique libre et exigeante de la musique. On parlera sans doute philosophie, science-fiction, recherche, avant-garde, collectif. On parlera des six cordes aussi, l'instrument n'est jamais très loin. Depuis un moment, son nom ressortait des conversations de l'émission. Il était donc temps qu'il soit à son tour au micro de l'atelier du son, aux côtés de Thomas Baumgartner.
Il y a des sons qu'on n'entend plus. Qu'on ne peut plus entendre, qu'on ne peut plus faire entendre. Il y a plusieurs raisons à cela, plusieurs raisons possibles. Il y a le saut technologique, par exemple, le passage d'une norme à l'autre, qui rend certains supports illisibles, et ça pose pas mal de questions en ce moment quant à nos traces, celles qu'on laissera, traces artistiques et culturelles, entre autres, traces personnelles, tout simplement. Comment voir nos photos dans 20 ou 30 ans, comment les stocker, les rendre visibles. Pareil avec nos films ou avec nos sons. C'est valable pour la sphère privée comme pour des travaux publics. Il y a donc des sons qu'on n'entend plus parce qu'on a du mal à les lire, mais aussi des sons qu'on n'entend plus parce qu'ils ne veulent plus rien dire, dépassés, sans intérêt. Et puis il y a des sons qu'on n'entend plus parce que personne ne les a jamais enregistrés. Alors on enquête, on se projette. Quel bruit faisaient les chevaux sur les pavés de bois à Paris au début du XXe siècle, par exemple. Et puis il y a des sons qu'on pourrait entendre, qu'on pourrait lire, qu'on pourrait même transmettre à nouveau. Des sons aujourd'hui dans des boîtes plus ou moins virtuelles qui ne demandent qu'à être ouvertes. Il y a 10 ans demain, 28 février 2015, que Yann Parentehen a disparu. 10 ans demain que Yann Parentehen a raccroché son Agra, ce grand ingénieur du son, sensible et auteur de radio, prix Italia pour questionnaire pour l'Esconil en 1980. Il a signé toute une série d'œuvres majeures, toutes caractérisées par une grammaire de radio exigeante. Les voix en mono, le paysage en stéréo, voilà pour schématiser. Un contact rugueux avec le son, des coupes franches. Une attention particulière aux accents, aux grains de voix, une plongée de l'auditeur dans une temporalité différente. Voilà d'autres titres, Lulu, Onnagra, Le phare des Roches d'Ouvre, Un petit chariot pour la Grande Ourse, Portrait de Georges Perros, d'autres encore et souvent en collaboration. Pour les 10 ans de la disparition d'Yann Parentehen, on n'entendra aucun son. Ce n'est pas possible de les entendre pour des raisons juridiques qui ne sont pas encore résolues. Alors il reste quelques CD, rares, qu'il faut débusquer pour se faire sa petite projection soi-même, ce qui est dommage, tant toutes ces émissions étaient faites pour être transmises par les ondes. Mais bon, c'est l'occasion de repenser à la silhouette du travailleur infatigable qu'il était, Parentehen, bonnet sur la tête, travailleur à la main, et à ce son projeté comme de la peinture. On repense à lui en attendant la libération des ondes. Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. Ce soir, dans l'atelier du son, effectivement, comme disait Aurélie à l'instant, Richard Pignas est notre invité, un pionnier d'électronique, un guitariste chercheur de son, un homme qui doute aussi parfois, figure musicale et philosophique, un grand indépendant qui a pu dire qu'il voulait rendre audible le cosmos, ce qui est un beau programme. Bonsoir Richard Pignas.
Bonjour, je m'excuse, hein, c'est Richard Pignas.
Richard Pignas, ah, pardon.
Parce que, non mais, c'est, bien sûr, on met l'accentuation avec le H aspiré, ça ne me dérange pas, mais Pignas, ça ne correspond pas à grand chose.
Bienvenue à vous.
Ouais, et donc c'est le but là de rendre les forces invisibles visibles, c'est-à-dire que le boulot du peintre, c'est mm-hmm. de rendre visible les forces invisibles, ou le musicien, enfin du compositeur, ça serait... Enfin, compositeur entre guillemets, hein, parce que... Mm-hmm. Il y a un mot que je ne supporte pas par-dessus tout, celui d'artiste, donc on va éviter tout ça. Mm-hmm. Graphiste peut-être, artiste non. Et surtout, ouais, c'est la grande théorie de Gilles Deleuze, mm-hmm. qui reprend... Alors, je pense que c'est dans le tome 2 de Capitalisme et schizophrénie, dans Mille plateaux, mm-hmm. Ce thème du... Le rôle de l'artiste, c'est de rendre sonore, visible, audible, mm-hmm. à nous, pauvres corps humains, presque humains, inhumains, post-humains, anhumains, les forces qui nous traversent, les champs électromagnétiques que nous émettons, car en fait, par-delà le fait que nous soyons des producteurs-consommateurs, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de subjectivité, de choses comme ça, mais je pense que par-dessus tout, à cette vision néo-capitalisto, tout ce qu'on veut, libéral de merde, que le système... Alors, il y a pire. Hein. Nous sommes des antennes, des émetteurs-récepteurs. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tous les corps humains, tous les corps animaux, dans le bon sens du terme, donc tout le non-humain, mais je pense à nos amis, frères animaux, mais aussi les arbres, aussi les ordinateurs qui nous parlent, qui peuvent s'arrêter de fonctionner dès qu'un mauvais homme, là, le dernier des hommes, dirait Nietzsche, fait des conneries, ça marche plus. On émet et on reçoit des champs électromagnétiques, quoi. C'est une vulgate, hein. Et je pense que c'est très important.
Quand vous avez une guitare entre les mains, Richard Pignas, vous êtes à votre tour récepteur et émetteur, c'est comme ça que vous voyez?
Non, je veux dire, quoi que je fasse ou quoi que vous fassiez, quoi qu'on fasse, on est émetteur-récepteur, non pas producteur-consommateur, émetteur-récepteur, d'ondes, mais aussi de travail. Et c'est un peu comme vous, quand vous avez un micro dans les mains. Moi, j'ai une guitare dans les mains, alors c'est peut-être un tout petit peu plus difficile. On peut aussi avoir une femme dans les mains ou une femme avoir un homme dans les mains, mais tout ça, c'est des histoires de degrés de puissance, de rencontres, de commitments, comme on dirait en anglais. Et il y a une phrase de Robert Fripp qui est assez intéressante. On discutait un moment où je venais de perdre mes parents et il me fait... Je disais que la seule chose qui peut me sortir de ça, c'est la musique. Il me fait « It is as it is ». C'est comme ça, avec ça, tu te démerdes. Et, ouais, à part faire de la musique... j'ai pas grand chose à offrir au monde parce que beaucoup de choses ont été dites en philo, par exemple, qui est un champ, ou en littérature, qui est un autre champ qui me touche énormément. Et là, on voit la puissance de ce que peut être un véritable écrivain. Je pense à Houellebecq, par exemple, qui. On a eu des réactions invraisemblables par des gens qui n'ont pas lu le livre. Et j'ai lu il y a 2-3 jours une chronique du blog du Monde, ou donc un des travailleurs du Monde, je vois pas comment l'appeler, pas journaliste en tout cas. Parle pendant 2 pages du roman de Houellebecq sans même avoir une ligne concernant le style. Alors, je veux bien qu'on ne sait pas non plus Céline, c'est pas non plus Flaubert, mais bon, faut arrêter de déconner, quoi. Je veux dire, on a la chance d'avoir quelques bons écrivains, quelques bons musiciens. Alors, et c'est vrai que les musiciens en France, faut pas trop en parler, quoi. Très
faut
amusant,
trop,
d'ailleurs.
Non, il ne faut pas trop en parler.
Je donne un exemple. J'ai travaillé pendant une période, bon, c'est du passé, on s'est un peu fâché, mais ce n'est pas grave, on a vécu une aventure fantastique à partir d'une reformation en 2000 avec Maurice Dantec, principalement, et Norman Spinrad, qui est écrivain. Problème de gestion des égos, ainsi de suite. Le problème, c'est que tous ont une perception en avance des choses, c'est-à-dire qu'ils voient 15 ans, 20 ans avant nous, ils arrivent à le dire, les situations politiques, etc., bah, telles qu'on se le prend dans la gueule 10-15 ans plus tard. Donc, avec Maurice, on sort un disque. Il vit à Montréal, donc je rejoins Montréal. On a la chance de pouvoir faire une tournée à quelques gros festivals au Canada. Puis on fait des dates, on commence par, si je me souviens bien, par Chicago. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de starisation, tout ce qu'on veut. Et aux États-Unis, le référent, c'est le musicien, le compositeur. C'est-à-dire que les flics vous arrêtent, etc. Vous êtes guitariste de rock, par exemple. Hein. Génial. Une fois que les papiers sont réglés, là, ils sont durs jusqu'à ce moment-là. Après, ils vous ouvrent la route. C'est leur culture, quoi. Donc, on fait les concerts où je suis derrière, lui est inconnu. C'est au moment où ça marchait bien, hein, je veux dire, Babylon Baby, etc. On arrive pour finir la tournée en France, quelques concerts. Et là, tout s'inverse, comme on peut s'y attendre. Les musiciens, zéro, ça vaut rien. Mm-hmm. On ne connaît pas. Par contre, les écrivains, on les met au pinacle, c'est fabuleux.
Et c'est pour ça, par exemple, qu'un Norman Spinrad...
Le problème étant que, on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette position du musicien par rapport à la société française, ou c'est le même problème pour la
Richard
musique
Pinac,
classique.
Pourquoi, ouais, pourquoi vous partez si loin? Pourquoi vous partez si loin? On fait à peine connaissance.
Il y a sans doute
quelques personnes qui nous écoutent ce soir, qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites.
Ils n'ont pas perdu grand-chose.
Mais on va essayer de rattraper un petit peu ça. Et surtout... vous présentez un petit peu, je me demandais si ce genre de choses, vous parliez d'antennes, émetteurs, récepteurs, vous traversez quand vous... Mais je ne dis pas que ce n'est pas important, j'ai juste qu'il faut trouver le bon moment pour en parler, on est là pour en parler justement.
Ah bon, non, on va passer à autre chose tout de suite. Là.
Mais non, je me demandais si vous aviez l'instinct de ça, quand à 14 ans, vous tendez des cordes de guitare à Jimi Hendrix dans les coulisses de l'Olympia.
Ah oui, ouais. Vous voulez que je raconte l'histoire ou quoi? Alors, on m'appelle, un copain qui est présentateur, qui est MJ, quoi, qui... Il présente les spectacles, il s'appelait Sam. Et donc il y avait Hendrix, j'avais, et comme fan de 14 ans, j'avais les mêmes cordes que Hendrix, les mêmes chaussettes, tout ce qu'on veut, mais surtout les cordes de guitare. C'était, je me souviens très bien, des boîtes en plastique verte, rouge et bleu, et selon le tirant de la corde, light gauge, small gauge, enfin la force, de la grosseur de la corde, moi je jouais sur du 0,9, parce que Hendrix jouait sur du 0,9, et donc lui, il jouait, c'était très reconnaissable, ça a disparu comme marque. Hein. Donc, tout ce qu'on vous raconte, c'est des conneries sur Hendrix. Il faut voir un peu dans les journaux, c'est pas... Bon, lui prend des piquettes ouvertes, il a besoin de jeux de cordes. Sam sait que j'ai ces cordes-là comme petit fan de 14 ans. Il me dit, est-ce que ça ne te dérangerait pas de venir dans la loge et de lui donner un jeu? Évidemment pas que ça me dérange. Donc j'arrive à l'Olympia, j'ai 14 ans et demi, et je tends le jeu de cordes à Hendrix dans les loges de l'Olympia. Il y aura le concert après. Alors, Hendrix, j'ai vu 7 ou 8 fois, hein, quand même, y compris la dernière fois à l'île de Wight. Et il me fait « Wow, groovy, man !» Et il me serre la main. Inutile de dire que je ne les ai pas lavés depuis. Donc, bien avant la philosophie de Gilles, bien avant l'influence de gens comme Fripp, Eno, comme Aphex Twin, plus récemment, voire Nirvana, comme évidemment Scarlatti, Bach, tout ça. Hendrix. Voilà. On a Hendrix, Coltrane, Miles, et avant, les... confrères, entre guillemets, classiques. Mm-hmm. On revient vers la réalité des choses.
Vous
les cordes de guitare. On était parti trop loin tout à l'heure. Est-ce qu'on revient? Une fois dit qu'on est dans une maison de la radio, que le logo des Godspeed You Black Emperor, qui est un des meilleurs groupes depuis une quinzaine d'années, tourne autour aussi des antennes, quoi, des grandes multinationales, et des antennes qui... parce qu'elles émettent, parce qu'on émet tous des vibrations, des degrés de puissance. Voilà. Ces vibrations sont des degrés de puissance, et puis on les rencontre ou on ne les rencontre pas. Donc en fait, toute l'histoire d'un concert, c'est est-ce que la musique vous rencontre d'abord, et ça arrive une fois sur 20, est-ce qu'elle vous fuit, et quand ça arrive, c'est extrêmement triste, et c'est même plus la rencontre de quelqu'un avec son public. Moi, je ne crois pas qu'il y a du quelqu'un ou un truc comme ça. Il y a une antenne. Qui peut être moi à un moment, j'incarne le rôle d'antenne, je me déguise en antenne, voilà, je ne me déguise pas évidemment, c'est un devenir antenne, comme dirait l'autre, et à ce moment-là, je joue, voilà. Comme tout à l'heure.
Tout est installé pour
tout, il n'y a pas grand-chose. Un live. Un rack d'effets, deux amplis, c'est vraiment à minima.
Pour un live à maxima tout à l'heure. Mais justement, avant ça, on parlait d'un point de départ. Je ne sais pas si c'est un point de départ, en tout cas une rencontre assez fondatrice, apparemment celle de Jimi Hendrix. Vous êtes venu ce soir avec un cadeau, avec un extrait, un inédit, qui est...
J'ai reçu hier... de la part d'un ami japonais qui est un des meilleurs batteurs du monde, je veux dire un des cinq meilleurs batteurs, il y a une cinquantaine d'années, Yoshida Tatsuya, qui fait partie de toute la scène d'avant-garde japonaise, mais bon, qui joue de tout, évidemment. C'est d'abord un grand musicien, un compositeur, et ainsi de suite. Et on a eu la chance de faire une assez longue tournée au Japon, qui s'est finie le 1er décembre, par un assez gros concert dans l'endroit qui s'appelle le Honest. Alors, il y a plusieurs, Honest, East, West, etc. Et la formation était la même qu'au festival de Victoriaville au Canada, 2 ou 3 mois avant. 3 ou 4 mois, peut-être, au mois de mai, donc 6 mois avant, avec Keiji Aino, guitare, chant et fait, avec Merzbo, le créateur de la noise music, quoi, Masami Akita, qui sont des gens extraordinaires, quoi, vraiment extraordinaires, qui vont jusqu'au bout. Yoshida Tatsuya, batterie et fait, et puis bah, moi j'ai eu de la guitare, puis j'ai eu la chance de pouvoir réunir tous ces gens. Ça serait bien de faire ça à Paris, avant de mourir tous, puisqu'on est tous à des âges avancés maintenant. Non, mais je suis sérieux.
Vous faites un appel alors ?
Je fais un appel, oui, parce qu'il ne se passe rien ici, quoi. C'est un peu triste. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire des choses comme ça, qui sont quand même faisables, hein ? Il ne faut pas des milliards de dollars non plus, pour jouer au Canada, pour jouer aux États-Unis, pour jouer au Japon, beaucoup même. Ça fait 2-3 fois. Hein.
Donc là, c'était au Japon.
Pas ici. Là, c'était au Japon, ouais, une assez grosse scène. Et donc, on fait un morceau qui dure 59 minutes et quelques. Je pense qu'on a juste pris un tout petit extrait. C'est reçu hier, c'est pas mixé, c'est ce qu'on appelle rough mix.
Rough mix, inédit.
Rough mix, c'est Yoshida Tatsuya qui avait mis son petit 8 pistes comme ça. Et il m'a envoyé ça hier. Donc on va essayer de progresser un petit peu. Et on a une première worldwide. Comme seront les deux albums de Eldon. Pour la première fois en vinyle, ça sort en avril le 18 pour le Disque Day. Et c'est Eldon Live 75. Et Live 76 au Palace.
Eldon, ça, c'est votre groupe, et ça, on va en reparler. Mais on écoute d'abord cet inédit worldwide, comme
avec
vous dites.
Avec plaisir. Thank you.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Merzbo, Richard Pinas.
Ouais, il n'y a pas que Merzbo, on est quatre là. Il y a Merzbo, Pinsami Akita. Il y a Keiji Aino qui est une icône, quoi. C'est un magicien, c'est un chaman. Hein.
Ouais.
Plus quelqu'un d'incroyable, quoi. Et il y a Yoshida Tatsuya qui est un batteur avec lequel donc, j'ai fait 15 dates, avec lequel j'ai déjà joué. Puis ma modeste, infime part. Mais tout ça a pu être regroupé. Après le festival de Victoriaville, donc au Canada, où la scène était rejouée dans un truc de hockey, quoi, une patinoire de hockey de compète.
Ouais.
Donc la scène elle-même était plus grande que la plupart des salles où on joue normalement. Et c'était très drôle.
Et donc là, c'était un enregistrement donc, au Japon. On espère donc...
Live, et c'est pas un mix. Voilà. Hein, c'est vraiment... voilà, ça j'ai sort. Reçu ça hier, donc je vous l'amène.
Ça sort tout juste de la boîte aux lettres.
Ouais.
Vous dites que votre musique, Richard Pinas, c'est faite pour toucher le corps avant toute chose.
Non,
et
non,
éventuellement
non,
le cerveau en tant qu'une partie du corps.
Non, ouais, non. Je pense que la musique, elle est faite à partir de cerveau, cœur, âme, brain, comme pour le blues. Et corps, mais il y a cerveau aussi. Hein. Donc c'est un mix de trois. Et il y a la partie création d'un côté.
Mm-hmm.
Et ça, là, c'est la main invisible du marché. Non, de Dieu. Non. Bon, la main invisible d'un côté. Et de l'autre côté, le travail, quoi. Parce qu'un musicien, ben, voilà, travaille aussi. Mais je commence à trouver ça agréable de faire. Ouais, ça me calme. Faire 2 heures de gamme tous les jours. Et puis c'est merde pour ceux qui jouent pas. Tant pis, moi j'ai un grand plaisir à jouer. Un grand plaisir de jouer avec d'autres, de découvrir d'autres mondes.
Pendant 6-7 ans, vous n'avez pas joué.
Oui, mais ça a été un coup de... C'est le coup, ça a été entre mes 31 et 37-38 ans. J'ai, au milieu d'un disque qui s'appelait Le désert croît, mais alors qui fait croître le désert, citation reprise 4 fois dans l'œuvre de Nietzsche, etc., etc. Donc en allemand, DWW, la croissance du désert. Et puis à un moment, effondrement, quoi. Fondrement relatif, puisque je suis toujours là, mais ouais, période difficile, où pour moi la musique était finie. Ça arrive de temps en temps avec des peintres, avec des écrivains, surtout avec des peintres, et puis ils pensent, et je pensais que ça serait fini définitivement, parce que ça arrive que ça arrive. En général, c'est quand on a pu jouer pendant 7 ans, bah, c'est pour toujours. Et là, il y a eu un coup de chance incroyable, bah, ça s'est remis en route. Il y a eu une connexion de. Enfin, bon, après 7 ans de dépression dure, bon, vraiment dure.
Vous partez entre Paris et la montagne.
Ouais, je passe beaucoup de temps à la montagne parce qu'il y a un climat qui me convient mieux. C'est un peu le coup de Nietzsche et son soleil, quoi. Mais ça, je ne le savais pas, je le découvre après. Et je fais de la philo, quand je peux, hein, sinon je ne fais rien. De la philo, de la montagne et du parapente et du saut en parachute. Voilà, pendant 10-15 ans, quand je ne faisais pas de musique, pas de philo, parachute, parapente.
Vous dites parachute, parapente, la montagne pour la santé et Paris pour les drogues.
Non, oui, bon, pareil pour les drogues. Je pense que les drogues, c'est annexe. Hein. J'en ai parlé, bon, évidemment, ces 10-15 dernières années, assez éloigné. Mais je pense que les drogues, c'est... Les psychotropes sont des drogues. Hein, ce qu'on prend pour dormir, c'est des drogues. Et que les gens qui prennent ça, en général, bah, ils prennent ça parce que c'est ce qui est le mieux pour qu'ils gardent la tête hors de l'eau.
Mmh.
Alors là-dessus, moi, j'ai eu la chance ou pas d'avoir un petit frère qui est mort il y a longtemps, schizophrène, très drogué. Mais schizophrène aussi, un vrai, quoi, clinique. Bah, c'était son moyen de rester en vie, quoi. C'était clair, c'était net. Et, là-dessus, il y a beaucoup à penser, quoi. Beaucoup à penser.
Le retour à la musique, c'est fait...
Quant à moi, cigarette. Hein. Mais on a enlevé les palmales sans filtre.
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Donc, je me suis rabattu sur les camels sans filtre. Et bah, il ne manquerait plus que ça pour qu'on nous les enlève. Et que les derniers fragments de liberté... etc. etc. J'avais envie de dire un truc fort, je le garde pour moi. Voilà. Oui, pardon.
Oui, d'utiliser le retour à la musique.
Ouais.
J'ai lu que Nirvana, ça avait compté pour vous.
Ouais, que ça a énormément compté, parce que je pense qu'il y a eu toute une période dans les années 80 où il n'y avait pas de musique. Quoi. Il y avait, on arrive, c'est très marrant, parce que la plupart des musiciens que je suivais font pratiquement rien, pour en dire. Eno fait pratiquement rien, Kraverk s'arrête, enfin des gens qui comptent pour moi. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Il y a Mitterrand. Bon, moi... j'avais été fan de Mitterrand, mais ce n'est pas pour ça que je me situe ailleurs sur l'échiquier politique. Et en même temps, il y a surtout Thatcher et, ouais, et Reagan, il y a le néolibéralisme qui arrive. Je fais juste des constatations. Ouais. Hein. Des gens comme moi tombent malades, s'arrêtent, font plus de musique, etc. Puis tout d'un coup, il y a ce prodige qui est Nirvana, qui ramène les gens vers la musique. Bon, là, tout un mouvement, d'ailleurs, Pearl Jam, etc., etc. Puis ça va déboucher sur cette création incroyable, celle d'abord d'Aphex Twin, puis de Godspeed You. Mm-hmm.
Et puis c'est le moment où l'électronique gagne vraiment en ampleur.
Oui, parce que l'électronique, j'ai connu ça au tout début.
Ouais, voilà, c'est
donc
ce que
on
dire.
Était quoi, 10 dans le monde. Il y avait des gens comme ce Kraftwerk, Klaus Schulze, Tangerine Dream, dont le fondateur est mort malheureusement le mois dernier, je crois. Voilà, Florian Frick qui fait les Popol Vuh, les musiques de film, de ce qui nous intéressait à l'époque. Et donc on est à la base de la création de la musique électronique. Je veux dire, on est à la base temporellement, je ne parle pas de bon, on s'en fout de ce que... Mais il y avait tout un champ à explorer, un champ géographique, géographico, pas historique, quoi. Et la musique électronique, c'est plutôt passé à ce moment-là vers la musique disco, quoi. C'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus, quoi.
Vous êtes moins du côté de Céron que...
Pas du tout. Je respecte. Hein, je pense pas que ce soit... C'est un musicien aussi, donc... Enfin, je respecte rien du tout. C'est de la merde, tant qu'il veut. Je veux dire, c'est pas bon.
Ils peuvent tout faire, part, vous étiez un libertaire du troisième type. Non, c'est ça,
peut-être.
Ça.
Surtout qu'on me dise pas que je suis un libéral libertaire, parce que ça, j'aurais horreur. Troisième type. Ouais, je me retrouve dans... Pour être très strict, donc c'est pas politique, dans l'anarchie de Lévinas, dans l'anarchie strictement au sens du terme, c'est-à-dire le sans origine, l'anarchie. Mmh. Bon.
Richard Pinas, oui. Je vous demandais de mettre le casque à côté de vous, on va vous faire écouter une voix. Vous allez peut-être reconnaître.
Bon, ouais.
the position which writers such as myself hold in America are, those positions are very lowly. Science fiction is considered to be something for adolescents, for just high school kids, and for disturbed people in general to read in America.
Ça vous dit quelque chose?
J'ai l'impression de connaître cette voix. En même temps, ça sonne comme quelqu'un de jeune. Je sais que je la connais, je suis incapable de dire.
C'est quelqu'un que je crois que vous avez rencontré, c'est Philippe Kadic.
Oui, j'ai pensé à lui, puisque oui. C'est pas Norman, voilà, il y a
non,
encore
mais
deux, trois.
C'était pas un blind test.
Mais dans ma tête, ça sonnait pas. Voilà, maintenant, c'est à quelle année?
77.
77, d'accord, dernière fois en France, quoi.
Voilà, c'est à Metz, convention.
C'est Philippe Kadic, ouais. Voilà. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer en 1974, ouais. Avec Norman Spinrad, avec des gens comme Peter Fitting, et avec mon enfin, la mère de mes enfants. On a passé 36 heures avec lui, mm-hmm. avec Norman, à discuter, principalement évidemment de littérature, de musique, et de Jung. C'est un fanatique de Jung, ouais, enfin, ouais, on comprend. Et Phil Dick, il faut dire, si on regarde, c'est... Alors évidemment, j'ai ramené un reportage pour justifier mon voyage pour Actuel.
Et pour le magazine Actuel, voilà, c'est
ouais,
Jean-François
Actuel,
Bizot.
Il faut se rendre compte
avez...
que ce qu'a fait Bizot est ça, fantastique quand ouais. même entre Actuel et Nova. Un boulot incroyable. Et donc à un moment, je suis aux États-Unis, on est à Los Angeles, il y a Norman, et on est vers Orange County, qui est un des endroits les plus réactionnaires du monde, pas très loin du Disney World, et là on passe 36 heures avec Dick, que j'avais lu évidemment bien avant. Et qu'est-ce qu'il y a avec Philippe Kadic? Bah, principalement, c'est un prophète. Mm-hmm. Voilà, c'est l'exemple type de ce que pourrait être un prophète. C'est-à-dire qu'il voit les choses avec 30, 40, 50 ans, voire beaucoup plus d'avance. Et je donne un exemple. Alors, bon, beaucoup de films sortent hein, à partir de... Bah, Blade Runner est aussi un des films qui m'a le plus plu dans l'histoire du cinéma. Mais... toutes les expressions comme Amex au lieu d'American Express, toutes les espèces de collages entre les mots, tout ça démarre dans les romans de Dick, repris par Norman. Et on a eu beaucoup de chance, par exemple, à Nantes, de se retrouver avec des très grands, bah, ils sont âgés maintenant, ils ont tous 80, encore auteurs de science-fiction, qui vont de Ballard à Moorcock. Mm-hmm. On a dîné ensemble, Moorcock, Norman. Et à discuter, bah un peu comme je pourrais me retrouver avec des amis musiciens. Quoi. Moi, je n'écris pas, je ne sais pas écrire. Et puis, je pense qu'ils font bien leur boulot. Donc, ouais. Spinrad va venir vivre en France, pour dire.
Norman Spinrad.
Oui, ouais. Il s'établit absolument dans le 5e et absolument de tel et tel endroit pour finir sa vie. Il pense d'une manière tranquille. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas aussi tranquille que ce qu'il réclame.
Voilà. Ça, c'est que c'est quelqu'un qui a été aussi, c'est une rencontre qui a été aussi très importante pour
moi.
Ah
oui, mais elle continue. Hein. Ouais. D'abord, on s'est rencontrés. J'étais fan de son premier livre, enfin, le premier livre que j'ai eu en France, Buck Jabberon, Fait chier Jack Baron, où la question qui se pose, c'est celle du corps, mais du corps au sens moderne du mot. C'est-à-dire, on est dans le corps plus, le corps augmenté. Lui, il voit ça en 70, où déjà, alors qu'est-ce qui reste pour les gens qui sont très riches, qui ont déjà acheté la. Et il reste que le désir d'être immortel. Évidemment, ça merde de tous les côtés, puisque ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, et vice-versa. Et. Après, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire, on a fait des tentatives entre musique.
Disque, même, oui.
Ouais, de musique et philosophie. Donc, le premier disque, ça a été avec Gilles, Le Voyageur. Le Voyageur, texte de Nietzsche, magnifique. Magnifiquement dit, parce que c'est ce qui me plaisait, le rythme, la voix, le timbre métallique. Et une espèce de synthèse, presque au sens conscient, de ce que fait Gilles.
Mais écoutons justement ça, le voyageur. On l'a retrouvé, figurez-vous, sur une compilation de Radio Nova.
Il est beaucoup sorti. Oui, absolument. Voilà. Ça, c'est un morceau qui est relativement.
Vous l'avez enregistré
sorti.
En 73, si je ne me trompe
c'était
pas.
C'était enregistré fin 72, c'est sorti une fois en 45 tours, puis repris dans le Eldon 1, fin 73. Et donc on est en studio, il y a Gilles, il y a Fanny, sa femme, il y a Jean-François Lyotin,
qui
est là.
Qui était votre
grand prof. Hein. Oui, c'est lui qui m'a fait soutenir ma thèse à Paris 1. Qui était sur science-fiction et inconscient.
Ouais.
Pas mal. Et pas mal comme thème, hein, je veux dire. Et à ce moment-là, oui, il y a une connexion entre la philosophie, ce qu'il appelle la pop philosophie, les synthèses, disjonctifs, tout ça, la musique de synthétiseur analogique qui arrive, quoi, qui est vraiment une musique qui précède la théorie des loops en physique et la théorie des cordes. Quoi. C'est vraiment comme si on était loops, cordes, les deux, comme des nœuds borroméens.
Qui sont aussi des termes de musique.
Oui, c'est exactement les mêmes termes. En physique, en mathématiques, les notions de temps, d'événement, de durée, de répétition, de différence sont exactement les mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une connexion intime entre la philo et... Voilà. Et à un moment, on se retrouve en studio. Moi, j'ai 22 ans. Gilles est encore tout jeune. Il y a... à ce moment-là, non, Mille plateaux n'est pas sorti. L'Antiodipe va sortir l'année d'après. Il va être très connu à ce moment-là. Dans les sphères universitaires, en tout cas. Et on fait ça, ouais. En sortie, un premier disque gratuit qu'on donne sur un label concret qui s'appelle Disjuncta. Et après, ça sera le morceau étendard, on va le dire comme ça, de la nation Eldon. Eldon étant repris un roman de Norman Spinrad.
Voilà, ce nom qui est donc aussi le nom de votre groupe, ouais. Richard Pinas. Et donc, le texte qu'on va entendre lu par Gilles Deleuze, c'est un texte de Nietzsche.
De Nietzsche.
Découpage.
Le Voyageur et son ombre, volume 2 ou 1, dernier aphorisme. Et c'est Gilles qui a fait le... découpage pour que ça tienne. Du coup, moi, j'avais fait un découpage merdique. J'avais choisi l'aphorisme. Mais après, il a fait le découpage et il l'a dit, comme l'aurait dit Nietzsche lui-même. Deleuze égale Nietzsche. Go!
Presque dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en ligne par vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou cris de lassitude. Il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur là de tous les voyages. Le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, ils songent à ce qu'il peut donner au jour, entre le 10e et le 12e. sixième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche la philosophie d'avant-midi.
Donne Richard Pinas et Gilles Deleuze sur ce morceau, Le Voyageur. On l'a dit, on l'a promis depuis le début de cette émission, un live, un moment, une plongée dans la musique de Richard Pinas qui s'est installée là, au milieu du studio de l'Atelier du Son ce soir. C'est à vous, Richard, de nous inviter en votre compagnie. Thank you.
La magie, hein.
La magie, bah oui. Vous avez lâché la guitare à les 30 dernières secondes et elle a continué toute seule.
Tout ça, c'est le monde paraître, du semblant. Ouais, non, je pense que c'est fondamentalement la pulsation du fond millimétrique sonore de l'univers, le rayonnement cosmique. Voilà. J'ai retrouvé dans les délais. Je ne fais pas de loupe, je ne fais pas de boucle comme ça. Donc tout se crée au fur et à mesure et se défait au fur et à mesure, selon la connexion cerveau-ordinateur, après cette grande opération. Et ouais, c'est un peu essayer de retrouver la pulsation primordiale.
Rendre audible le cosmos, c'est la phrase dont on parlait au début de cette émission, Richard Pinas. Mmh. Ouais, c'est
un beau pas le choix, quoi. Si j'avais pu faire autre chose.
Ouais, bon qu'à ça, disait Beckett. Bon qu'à ça.
Ouais, Beckett. Ouais.
Ah.
Quel terrible 5 heures du soir.
Juste avant cette émission, je vous disais qu'on était content de vous recevoir dans l'atelier du son sur France Culture. Richard Pinas, parce que ça fait un moment que les uns et les autres, divers invités, parlaient de vous. Donc voilà, vous êtes ici, vous nous avez accompagnés toute cette soirée. Et vous m'avez dit, c'est pas le plus mauvais moment pour m'inviter, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que le 18 mars, alors c'est ça, à Tours, au Petit Faucheux, au Superflu Festival, vous serez sur scène avec vos amis.
Avec Noël Acouchoté, avec Arthur Narcy, fantastique batteur. Manu Adno et Vijay Miloche qui fait un mur d'images extraordinaire. Donc ça, c'est après le Lieu à Nantes.
Lieu unique à Nantes le 25 mars. Donc
avec Arthur Narcy batterie. Donc on va jouer à deux avec tout un tas de gens qui seront là. Etienne Jomet avant. Il y a Seston de Moche, je crois.
De Sonic Youth. Aussi. Ça, c'est le festival Assis debout couché. Et puis j'ai vu qu'à Souffle continue.
Paris, ouais, je fais un petit set de 20 minutes pour la sortie des deux albums vinyles qui aura lieu le 18 avril. Elle donne 75, elle donne 76. Puis quelques concerts en Israël pour la première fois, je joue à Jérusalem, en principe, ça devrait être bon. TBC, TBA, To Be Announced, To Be Confirmed. Après, ben, Europe de nouveau, et puis de toute façon, tout ça sert pour payer le loyer, donc je ne vais pas en voir la couleur. Ben, voilà, c'est comme ça.
Merci beaucoup Richard Pinas d'être passé par ici. Merci, l'atelier du son s'est terminé pour ce soir. Pour aller plus loin, il y a le site franceculture.fr. Là, réécoute les commentaires, les compléments et les podcasts. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y a Alain Joubert et Laurent Keul. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
À bientôt.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez dans les ateliers de la nuit la semaine qui suit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, l'auteure américaine Jennifer Halley nous plonge dans un monde virtuel. Il existe maintenant la communauté du Nether. Internet est accessible non plus par le web, mais par cet univers virtuel immersif. Nous, les humains, pouvons piloter des avatars. Que faire alors dans cet espace virtuel de la moralité ? Mercredi soir, l'atelier de création « Entre les mères » de Marc-Antoine Granier, qui interroge dans sa famille trois générations de femmes, sœurs, mères et grand-mères, à partir de la naissance de la plus jeune après un déni de grossesse. Jeudi soir, l'atelier de création radiophonique « Rien que les eaux » de Floyd Crouchy et Nathalie Battus, dans l'Inde du Sud, en zone tribale, une cérémonie retrace l'histoire de la tribu des Irulas et de sa confrontation avec le monde moderne. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit pour parler jalousie avec l'auteur Julia Sissa. N'oubliez pas de podcaster les ateliers de la nuit, ateliers fiction, ateliers de la création, ateliers du son, ateliers intérieurs, tout est sur le site internet de France Culture. En attendant, il sera bientôt minuit, c'est l'heure des nuits.